tout le monde connaît le petit refrain. Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, ding ding dong. Un jour, je me suis demandé ce que voulait dire matine. Eh bien, c'est le premier office des heures canoniales, et il commence très tôt, en fait, au milieu de la nuit, et il est surtout destiné aux personnes qui mènent une vie monacale. Mais qui sont ces gens qui choisissent de vivre ainsi, retirés du monde? Je suis sûr que certains sont motivés par une parole que l'apôtre Pierre prononce dans le chapitre 4 de sa première épître. Je lis ce texte. « L'accomplissement de toutes choses est proche. Soyez saints d'esprit et disciplinés afin d'être disponibles pour prier. » Verset 7. La tournure de phrase « L'accomplissement de toutes choses est proche » est la même que celle de Jacques quand il écrit « Prenez patience, soyez pleins de courage, car la manifestation du Seigneur est proche. » Le mot traduit par « accomplissement » veut dire « conclusion, réalisation, but ». Il s'agit du retour du Seigneur en gloire. Même si l'enlèvement de l'Église est le prochain grand événement sur le calendrier divin, Pierre regarde plus loin encore quand Jésus reviendra pour établir son royaume. Pour Pierre, le retour du Seigneur était imminent au point où il pensait qu'il aurait lieu de son vivant. Il ignorait qu'il y aurait d'abord l'enlèvement de l'Église parce que cette révélation n'a été donnée que plus tard et à l'apôtre Paul. Comme je le dis de temps en temps, Dieu fait connaître les mystères du royaume petit à petit et un à un, pour ainsi dire. C'était vrai sous le régime de l'Ancienne Alliance et ce fut également le cas pendant tout le temps qu'a duré la rédaction du Nouveau Testament. Quand l'apôtre Jean, qui était exilé sur l'île de Patmos, a reçu la vision apocalyptique de la fin des temps, les autres apôtres étaient déjà morts et aucun n'avait jamais eu connaissance de cette révélation. Quant à nous, ce n'est pas l'établissement du royaume que nous attendons, mais la venue du Seigneur dans les airs, lorsqu'il viendra nous chercher pour nous emmener avec lui dans les cieux. Cet enlèvement peut survenir à tout instant. Donc, pour Pierre et ses lecteurs, comme pour nous, la venue du Seigneur est imminente et le comportement à observer dans un cas comme dans l'autre est le même. Les exhortations que l'apôtre adresse aux croyants du premier siècle sont parfaitement adaptées à notre situation du 21e siècle. Comme Dieu désire que tous les croyants vivent dans l'expectative, dans l'espérance du retour de Jésus, il n'a pas révélé quand aura lieu l'enlèvement de l'Église ou l'établissement du royaume 2000 ans. Quand Pierre dit « Soyez saints d'esprit et disciplinés », il utilise deux mots pratiquement synonymes. Celui pour « soyez saints » a donné « sophrologie » en français et signifie « avoir une bonne maîtrise de soi ». Pierre écrit donc à ses lecteurs de ne pas se laisser aller à une passion passagère ou à un sentiment malvenu. Le croyant doit toujours garder la tête froide et avoir pour objectif principal une vie droite et bien réglée. Il doit construire sa vision du monde comme s'il avait déjà un pied, non pas dans la tombe, mais au-delà, dans le royaume des cieux, avec l'éternité en arrière-plan et devant lui. Le mot pour « soyez discipliné » signifie être vigilant, se tenir en éveil, ne pas se laisser distraire par les mondanités. Le croyant doit adopter une perspective spirituelle de la vie afin de recevoir la sagesse qui vient de Dieu et afin d'être rempli de la pensée du Seigneur. Alors il sera disponible pour prier et la prière sera pour lui aussi vitale que respirer. Je continue le texte. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Verset 8. Le mot pour pardonne veut littéralement dire cacher. Contrairement à une idée répandue, le véritable amour n'est pas aveugle. Il voit les fautes, mais passe outre et les ignore. Un proverbe dit « La haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes ». Je vois d'ici l'appréciation de Dieu sur le carnet de notes me concernant. De gros progrès restent encore à faire. C'est la deuxième fois que Pierre exhorte ses lecteurs en disant « Aimez-vous donc ardemment les uns les autres ». Le mot pour ardemment signifie « étiré, tendu ». Il servait à décrire les muscles d'un athlète qui était en pleine action ou d'un cheval qui galopait à toute allure. L'amour est la substantifique moelle du christianisme et de la loi de Moïse. À quelqu'un qui lui demandait quel était le plus grand commandement de la loi, Jésus a répondu « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. » Et dans la parabole du bon samaritain, le Seigneur explique ce qu'aimer son prochain veut dire. Dans son célèbre discours sur l'amour, l'apôtre Paul écrit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. » Un certain pasteur, qui était pourtant un brave homme, irritait certains membres de son assemblée. Figurez-vous qu'il avait des cheveux rebelles et chaque fois qu'il prêchait, une boucle se redressait au beau milieu du cuir chevelu et se dandinait en suivant les mouvements de sa tête. Il était obligé de se couper des cheveux très courts, à ras, afin de ne pas offenser certaines âmes sensibles. Cette histoire vraie fait sourire, mais quand on y réfléchit, elle n'est pas drôle du tout. Il faut vraiment être de mauvaise composition pour avoir une dent contre son pasteur parce qu'il a des cheveux qui se redressent comme des baguettes de tambour. Je continue le texte. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Verset 9. Le mot pour hospitalité signifie littéralement amical, aimable envers l'étranger. Ouvrir son toit aux inconnus faisait partie des obligations des Israélites. Cette exhortation d'accueillir les étrangers est fréquente dans le Nouveau Testament. Jésus a enseigné que l'hospitalité est l'un des attributs des justes. Au premier siècle, l'hospitalité des croyants les uns envers les autres était une nécessité. Déjà, les activités communautaires des assemblées chrétiennes avaient lieu dans des maisons individuelles. Il fallait donc bien que certains ouvrent leur foyer. Ensuite, des missionnaires itinérants visitaient régulièrement les églises et avaient besoin du toit et du couvert. Troisièmement, pendant les persécutions, les croyants devaient fuir pour se rendre dans des régions plus tranquilles. Il fallait donc les héberger. Cet amour qui pardonne et qui tend la main à l'autre est une manifestation du Saint-Esprit qui unit les croyants entre eux. Je continue. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Verset 10. Les mots pour « don » et « mettre au service des autres » ont respectivement donné « charisme » et « diaconat » en français. Le don provient de la grâce de Dieu qui est infiniment variée, littéralement à facettes multiples ou bigarrées. Chaque croyant reçoit au moins un don qu'il doit mettre au service des autres croyants. C'est sa contribution au bon fonctionnement de l'Église de Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit « En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même Esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il veut. » Fin de citation. Chaque croyant est tout aussi utile que la main, le pied ou un doigt l'est à son corps. Avec ses dons, talents et capacités, le croyant doit se comporter comme l'intendant d'une maison. Rien ne lui appartient, Mais c'est lui qui gère la terre, le capital, les provisions et toutes les ressources de son maître et les distribue selon la volonté de ce dernier. Je continue le texte. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Verset 11. Les dons peuvent être divisés en deux grandes catégories. La parole, comme dans la prédication et l'enseignement, le discernement, la connaissance et la sagesse, et deuxièmement, le service, comme dans l'administration, la prière et l'aide. Ces deux fonctions d'ordre général se chevauchent et tous les dons doivent être exercés par la foi, c'est-à-dire en comptant sur l'intervention du Saint-Esprit, l'auteur du don. Mais ça ne veut pas dire que les choses vont aller toutes seules. Des fois, quand je suis devant un passage difficile et que les commentaires se contredisent, je me prends la tête et j'ai envie de crier « Au secours !» Je cherche de l'aide partout où je peux en trouver et, par la grâce de Dieu, j'arrive à donner une explication qui me semble tenir la route. Dans le cadre de l'exercice des dons de la parole, ce sont les préceptes divins qui doivent être enseignés et non pas des idées humaines et sa propre façon de concevoir les réalités terrestres ou célestes. Pierre conclut ce paragraphe par une doxologie, c'est-à-dire en louant Dieu. Il écrit « Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. » La construction grammaticale de cette phrase ne permet pas de dire si c'est Jésus-Christ ou Dieu à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Mais cette ambiguïté est inspirée de Dieu puisque la gloire et la puissance appartiennent aussi bien au Père qu'au Fils. Tout croyant devrait avoir pour objectif la gloire de Dieu parce que l'homme spirituel se préoccupe avant tout du royaume des cieux. Il recherche les valeurs célestes et prend de la distance par rapport à celles de la terre. Cela ne veut pas dire qu'il néglige ses responsabilités mondaines, mais plutôt qu'il oriente ses pensées vers les réalités de l'au-delà et se prépare déjà pour la vie éternelle. Ici-bas, il n'est qu'un pèlerin de passage qui se dirige vers sa véritable patrie dans le monde à venir. Je continue le texte. « Mes bien-aimés, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris comme si c'était une anomalie qui vous arrive par hasard. » Verset 12. Les souffrances du croyant ne sont pas des mauvais coups du sort, mais des épreuves voulues et contrôlées par Dieu. « Mes bien-aimés » est une expression pleine de tendresse et d'affection. Pierre veut que ses lecteurs sachent qu'il les comprend et qu'il les aime. Il veut aussi les assurer de l'intarissable amour divin. Littéralement, il dit « Ne soyez pas stupéfiés d'être dans le brûlant au milieu de vous ». Le mot pour brûlant a donné le préfixe « pyro » en français comme dans « pyrotechnique ». Il désignait le creuset dans lequel on fondait le métal pour le débarrasser de ses scories. Dans les Écritures, le feu symbolise la dévastation et le jugement, ou alors la purification. La persécution sert à éprouver l'authenticité de la foi des croyants et à la raffiner comme leur fin. Ce verset s'applique bien à la persécution qui eut lieu sous Néron. Mais les croyants souffraient déjà avant que ne se déclenche contre eux la vaste campagne d'extermination qui fit suite au gigantesque incendie qui ravagea la ville impériale pendant 9 jours. L'histoire rapporte que depuis la tour de Mécène, Néron, les yeux pétillants de plaisir, observe le balai des flammes en train de dévorer les quartiers de la cité. Les soldats empêchent le peuple de combattre l'incendie et allument même de nouveaux foyers. Suite à cette catastrophe, les habitants sont déprimés parce que leurs biens et leur fierté nationale sont partis en fumée. Sachant que l'empereur voulait absolument réaménager la ville, ils le soupçonnent d'être à l'origine de cet incendie et lui en veulent. Néron lance alors une campagne de désinformation qui fait des chrétiens les boucs émissaires. Son mensonge est un coup de génie qui réussit parce que le peuple n'a que du mépris à l'égard des croyants. En effet, on les accusait d'être athées ainsi que des pires dépravations comme l'inceste et le cannibalisme. Tous les chrétiens qui sont appréhendés par la Gestapo de l'époque sont massacrés. Certains sont recouverts de poix et servent de torches vivantes pour éclairer les jardins de Néron. D'autres sont ficelés à des peaux d'animaux et jetés aux bêtes féroces. Les chrétiens du 1er siècle ne s'attendaient pas à subir des persécutions de la part des païens parce qu'ils ne faisaient aucun mal. De plus, quand Pierre écrit, les évangiles n'ont pas encore été rédigés et seuls les apôtres et quelques disciples connaissent l'enseignement de Jésus sur la souffrance. Alors, quand les croyants qui comptaient sur la protection et les bénédictions de Dieu ont commencé à être persécutés, ils étaient pris de court et désorientés. Plus tard, les apôtres Paul et Jean écriront respectivement « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. » Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Pierre cherche donc à préparer mentalement les croyants pour les heures sombres qui s'annoncent. Pour lui, les pires exactions n'ont rien de surprenant parce qu'elles ne revêtent pas un caractère extraordinaire. Je continue le texte. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin que quand il paraîtra dans toute sa gloire, vous vous réjouissiez de joie. Verset 13. Le verbe pour participer aux souffrances du Christ est apparenté à communion. La communion aux souffrances de Jésus n'a rien à voir avec une participation à l'expiation des péchés, mais signifie simplement souffrir en son nom pour lui et à cause de lui. Quand Saul de Tarse, le futur apôtre Paul, s'est converti, Jésus a dit à un certain Ananias qui devait aller voir Paul, « Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Selon Pierre, le croyant persécuté est privilégié car il a plusieurs raisons de se réjouir. Premièrement, dans le présent, parce que ses souffrances lui permettent de s'identifier davantage à Jésus. Et deuxièmement, dans le futur, lors de sa venue glorieuse, quand il établira son royaume de 1000 ans, car alors il règnera avec lui et sera glorifié. Les croyants fidèles qui souffrent pour le nom de Jésus, d'une part sont purifiés et d'autre part acquièrent un poids insurpassable de gloire qu'ils recevront dans l'au-delà. Quand Jésus paraîtra, ce verbe a donné Apocalypse en français. Suite à la résurrection et à son ascension à la droite du Père, le Seigneur a repris possession de la gloire qui était sienne de toute éternité. Mais elle était différente et d'une certaine manière, que je ne comprends pas, plus grande qu'auparavant, parce qu'il avait accompli la rédemption de l'humanité. Cependant, à l'exception de la transfiguration où il a partiellement révélé sa gloire à 3 de ses apôtres, il ne l'a encore jamais manifesté pleinement à quiconque, mais un jour il le fera. Selon l'enseignement qu'a donné Jésus, les croyants persécutés sont unis aux prophètes qui ont eux-mêmes dû endurer des souffrances, voire le martyre, à cause de leur fidélité à l'Éternel. Et l'apôtre Paul écrit « Puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. » Je continue le texte. « Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Verset 14. Au 1er siècle, les païens étaient passablement irrités à en devenir méchants, d'entendre les croyants parler de Jésus-Christ parce qu'ils le détestaient à cause des exigences morales du christianisme. Ils aimaient se vautrer dans le purin de leurs péchés. Ici, Pierre donne à ses lecteurs une troisième raison de se réjouir à cause des persécutions. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Le verbe « repose » signifie « soulager, rafraîchir, donner du répit ». C'est l'Esprit de Dieu qui apporte aux croyants une consolation surnaturelle, ainsi que le courage et la persévérance pour endurer les exactions. Quand le diacre Étienne fut mis à mort par les Juifs, il était parfaitement serein, car porté sur les nues par le Saint-Esprit.